Alors voilà, c'est une joie d'être au milieu de vous dans cette journée particulière de dimanche de Pâques. Comme vous l'avez vu sur les programmes, j'ai pensé que ça serait bien qu'on parle du combat spirituel. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, et puis on peut dire depuis le début de l'humanité, on voit la puissance du mal qui agit, qui détruit, et finalement, on peut se poser cette question, mais d'où viennent toutes ces choses? D'où viennent les atrocités? D'où viennent la méchanceté? Comment est-ce que ces choses se répandent? Et je trouve qu'aujourd'hui, on assiste quand même dans notre monde à un glissement toujours plus profond et toujours plus global. Et c'est vrai que même simplement le fait de dire que Dieu existe, déjà, c'est quelque chose qui choque beaucoup de personnes. Et on voit que progressivement, dans beaucoup d'endroits, le bien devient le mal et le mal devient le bien. Il y a une emprise spirituelle, et c'est ce que la Bible nous révèle quand elle nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons nous battre, mais contre des dominations, contre des pouvoirs spirituels, des pouvoirs célestes qui agissent dans l'humanité et qui se manifestent par toutes sortes de séductions, par toutes sortes de violences. Et on peut voir un peu ce processus, ça commence d'abord par la séduction et progressivement ça devient une violence et ça finit par la destruction. Alors c'est un thème assez porteur et beaucoup de prédicateurs finalement en ont fait un petit peu leur cheval de bataille. On parle beaucoup du combat spirituel et on voit dans l'Église émerger toutes sortes de pratiques pour le combat spirituel. Une de ces pratiques, vous l'avez peut-être remarqué, peut-être vous l'avez vécu, c'est des personnes qui vont monter sur des montagnes et qui vont se mettre au-dessus d'une ville et quand ils seront là-haut, ils vont commencer à entrer dans un combat spirituel. Et ce combat spirituel sera de chasser les démons qui sont sur la ville. Dans certaines communautés, cela se fait après des jeûnes de 40 jours, les gens sont totalement épuisés et ils vont commencer à crier, à hurler contre les puissances qui tiennent les villes, les régions. Au nom de Jésus ! Et ils chassent les démons. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça marche ? Je me rappelle avoir été dans la ville de Kinshasa, que plusieurs ici connaissent, et des prédicateurs et des pasteurs et des communautés chassaient avec puissance l'esprit de pauvreté qui était sur la ville de Kinshasa. J'y suis retourné plusieurs fois, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la pauvreté s'est envolée ? Peut-être que des gens ont prié sur la ville de Bienne et chassé les emprises spirituelles qui sont sur cette ville. Je vous pose la question, depuis le temps que cela a été fait, est-ce que la ville est libérée? Est-ce que les esprits sont partis? On peut voir par exemple que aussi dans le Nouveau Testament, ce n'est pas quelque chose que Jésus a fait. On n'a aucun texte dans le Nouveau Testament qui nous montre que Jésus soit monté par exemple au-dessus de la ville de Jérusalem et commencé à chasser les démons qui étaient sur la ville de Jérusalem. Tous les apôtres aussi dans le Nouveau Testament ne parlent pas du tout d'une pratique comme celle-ci. Alors ça nous pose la question, finalement, comment vivre, comment exercer un combat spirituel? Alors pour cela, j'ai besoin de 3 acteurs, je les ai déjà sélectionnés, ils sont de la même famille, donc on sait qu'il n'y aura pas de problème de proximité avec le Covid. Je vais leur demander de s'approcher parce que nous allons retourner dans une période très importante. Voilà, je vous laisse peut-être venir ici. On va retourner à une époque assez centrale de l'histoire biblique. Vous pourriez dire, le prédicateur, il était déchaîné aujourd'hui. Alors c'est vrai que quand on lit la Bible, un des éléments centraux qu'on trouve dans la Bible, eh bien, c'est ce qui se passe avec les Hébreux. Le peuple des Hébreux, finalement, se retrouve en Égypte à cause d'une famine. Et progressivement, il y a une mainmise qui va se faire sur le peuple. Alors, faut prendre la chaîne. Et puis, progressivement, eh bien, il y a une domination qui va s'exercer. Et le peuple qui avait été choisi par Dieu, le peuple qui avait reçu beaucoup de promesses, eh bien, voilà, là, ils sont... Elle est où, là? Voilà. Voilà, comme ça, ça, c'est une famille unie, on pourra dire, après.
C'est vraiment cadenassé.
C'est vraiment cadenassé. Et qui c'est qui avait cette clé? Qui c'est qui avait cette emprise sur le peuple des Hébreux? Eh bien, c'est ce pharaon dominateur. Et ce pharaon dominateur, ce n'est pas pour rien que ces événements nous ont été même préparés par Dieu. C'est pour nous montrer quelque chose de très important. Le pharaon dominateur tient le peuple juif, toute son armée tient ce peuple-là, et commence à exercer contre lui une emprise diabolique. Le pharaon est vraiment l'image de cette puissance diabolique qui a pour particularité de réduire le peuple en esclavage, de commencer à massacrer aussi les nouveaux-nés pour pas qu'il y ait un libérateur qui arrive, et puis qui se manifeste par le fait qu'il empêche le peuple d'aller vers Dieu. Et quand Moïse va venir, il dit de la part de Dieu, « Laisse aller mon peuple !» Et nous voyons cette domination diabolique qui s'exprime en disant « Non, vous n'allez pas partir. » Et qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que c'est intéressant de lire le texte de l'Exode. C'est que face à cette emprise diabolique, Dieu va commencer à agir. Et il va agir en touchant finalement le royaume diabolique du dominateur. Et le Nil pour l'Égypte, pour la puissance de Pharaon, c'était l'artère vitale du royaume. Dieu frappe avec puissance. Tout à coup, il transforme le Nil en sang. Et est-ce que la chaîne lâche? Est-ce qu'elle lâche?
Non.
Non. Elle ne lâche pas. Au contraire, on le voit même que finalement, face à ce que Dieu va faire, eh bien, Pharaon va encore plus serrer ce peuple. Et ce peuple se lamente.
Oh. Je vais partir en vacances.
Ça ne marche pas. Alors, il y a une montée en puissance de Dieu, on peut le voir au travers des 10 plaies d'Égypte, comme vous le voyez sur le tableau. Après, ça ne se limite pas simplement à changer l'eau en sang, etc., mais ça devient finalement le monde, on peut même dire le monde biologique, c'est intéressant par rapport à notre époque, on le verra tout à l'heure. Eh bien, tout à coup, il y a les grenouilles qui montent, il y a des choses, même Pharaon dans toute sa gloire, tout d'un coup, elle a des horribles grenouilles dans son lit. Donc c'est Dieu qui frappe comme ça. Est-ce que la chaîne casse? Est-ce que Pharaon dit « Non, non, stop, on arrête ?» Non, le peuple est toujours en train de se lamenter. Ça ne marche pas. Alors Dieu envoie les poux, la vermine, donc c'est vraiment encore, cette fois ça gratte vraiment. Le grand Pharaon est en train de se gratter, ça le démange. Tout son royaume est touché par cette plaie aussi. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Le peuple se lamente. Pleurez un petit peu le peuple. Là, parce que... C'est les pleurs, c'est les lamentations. L'oppression, c'est très intéressant parce que l'oppression du pharaon ne diminue pas. Sa puissance diminue, mais son oppression se continue et on a même l'impression qu'elle progresse. Eh bien, on le voit avec des mouches venimeuses, de nouveau, tout ce qui est biologique, tout ce qui est cet équilibre dans la création est rompu. Dieu frappe ce royaume. Est-ce que ça marche? Non. Pleurez, pleurez toujours. Après, ça monte encore en puissance. Dieu frappe la vie dans le royaume, le bétail avec la 5e plaie. Il y a tous les troupeaux qui sont touchés. Est-ce que ça marche? Non. Pleurez toujours. Après, ça va toucher jusqu'au corps. Donc, c'est les ulcères, je vous imaginez, les gens avec les pustules et tout. C'était un petit peu plus dramatique que notre coronavirus. C'était vraiment quelque chose d'absolument terrifiant. les gens sont malades, et puis, eh bien, Pharaon aussi. Est-ce que la chaîne est coupée? Est-ce que Pharaon dit, c'est bon, je laisse tomber, je les laisse partir? Non. Et Pharaon joue toujours, mais finalement, il veut garder ces personnes en otage. Alors après, ça va un petit peu plus fort, parce que c'est carrément le ciel qui parle. Et là, on voit tomber des gros grêlons. C'est vraiment la destruction. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un orage, vraiment un gros orage de grêle. Eh bien, quand ça descend, je vous assure que c'est spectaculaire. C'est arrivé chez nous, il n'y avait plus d'herbe, il n'y avait plus rien. Tout était poussé, et c'est ce qui arrive. Donc, en Égypte, le ciel se déchaîne, les éclairs, tout. Est-ce que Pharaon se dit, c'est bon, je les laisse partir? Ils sont toujours enchaînés.
Ça fait un peu beaucoup, là.
Ça fait beaucoup, hein. Alors, après, c'est les sauterelles. Déjà, les cultures sont déjà bien abîmées, et finalement, ça vient ratisser. Donc, le Nil a été touché, tout a été touché, les animaux, les cultures. Il y a les sauterelles qui viennent encore dévorer les dernières choses qui restent. On peut dire, Pharaon n'a plus de puissance. Est-ce que ça marche? Non. Ils sont toujours... C'est impressionnant. Et à la fin, alors, on peut dire, c'est vraiment le summum, eh bien, Dieu éteint la lumière. Clic, comme ça. Ah, il enlève la prise, il n'y a plus de lumière. Et là, vraiment, n'importe qui se dirait, mais c'est Dieu, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Il a coupé le courant. Est-ce que Pharaon dit, c'est bon, je rends? Non. Toute cette puissance de Dieu ne suffit pas et le peuple se lamente. Pleurez un bon coup, là.
Il y en a marre.
Il y en a marre.
On voit même plus la porte
pour aller. Ah non, non, le peuple, il est encore dans la lumière. Mais... Et là, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on voit cette montée de Dieu en puissance contre le pouvoir du Pharaon, contre finalement ce pouvoir diabolique qui tient ce peuple. Et tout ce qui a été manifesté n'a pas suffi. Le Pharaon, on pourrait dire en quelque sorte le diable, tient toujours. Et à partir de ce moment-là, alors que tous, on peut dire que c'était un peu un échec, cette puissance, il y a une arme terrifiante, extraordinaire, la bombe atomique que Dieu va faire venir pour libérer son peuple. Et cette bombe atomique, c'est quoi? Ça, c'est le paradoxe extraordinaire de Dieu, parce que on se serait dit, on aurait pu penser qu'à ce moment-là, Dieu allait, je ne sais pas, ce qu'il allait faire tomber du ciel. Et non, ce qui arrive à ce moment-là, c'est un agneau. L'arme ultime contre le pouvoir du Pharaon, ce n'est pas la grêle ou la lumière, mais c'est un petit agneau. Vous allez prendre un petit agneau. Et qu'est-ce que cet agneau va faire? Eh bien, c'est pas mal, parce que vous savez comment on appelle ce type de pince? Ça s'appelle une pince Monseigneur. C'est pas mal, hein? Eh bien, il y a quelque chose d'étonnant, il y a une puissance absolument étonnante dans cet agneau. Cet agneau ne va pas se manifester par des grandes choses démonstratives, il va se manifester une puissance et une autorité de Dieu extraordinaire. Et le peuple hébreu, c'est lui qui va recevoir l'agneau. C'est assez étonnant, ce n'est pas finalement contre Pharaon, c'est eux qui vont recevoir l'agneau, vous pouvez le prendre, qui vont devoir manger l'agneau. Et quand ils vont faire ces choses-là, il était où le cadenas, là? Il a tourné. Ah, il est là, oui. Eh bien, la pince Monseigneur, quand ils vont avoir l'agneau, moi, je vais le faire même de deux côtés, parce que sinon, ça ne suffira pas. Voilà, vous pouvez rentrer, là. Hein. C'est la libération. Ouais, c'était cela. Hein. On peut laisser. Les chaînes, elles peuvent rester par terre. la puissance de l'agneau. Tout n'a pas libéré le peuple. Et ça nous montre qu'on peut crier contre le diable. On peut faire toutes sortes de choses contre le pouvoir du diable. Et je pense qu'il y a des prédicateurs qui sont dans cette logique-là. Mais la logique de Dieu, la puissance de Dieu est autre. C'est un très grand paradoxe. Moi, ce qui m'impressionne en Dieu, ce n'est pas sa grandeur, c'est son humilité. Ce n'est pas, finalement, comme on s'attendrait, un Dieu immense, puissant, qui nous ferait une démonstration de sa puissance. Il pourrait le faire. Lui qui, par une parole, peut lancer le Big Bang, faire sortir du rien tout notre univers. Mais il pourrait tellement facilement nous impressionner. Mais non, il révèle sa puissance à travers sa faiblesse, à travers une faiblesse. Et je discutais avec quelqu'un qui me disait, vous savez, l'agneau, c'est le seul animal qui ne peut pas survivre tout seul dans la nature. S'il n'a pas une assistance, il ne va pas vivre. C'est l'animal le plus démuni, le plus faible, et c'est lui qui va exercer cette puissance de libération sur Pharaon. Et cela nous donne une perception assez extraordinaire. C'est lorsque Jean voit Jésus arriver, et qu'est-ce qu'il dit ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est un simple homme qui n'a pas une couronne sur la tête, mais qui vient, et quand Jean le voit, il perçoit l'extraordinaire capacité et puissance qui est en Jésus. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et parfois, quand nous entendons cette parole, nous disons, bon, ben, bien sûr, c'est la Pâque, Jésus qui se donne. On a tout de suite, bien sûr, et c'est juste, cette vision de Jésus faible qui meurt sur la croix. Oui, mais l'épisode de l'Exode nous montre que cet agneau, c'est pas l'agneau qui vient simplement donner son sang, et on va mettre ce sang sur les portes, mais c'est l'agneau qui permet au peuple d'Israël de sortir de l'oppression. C'est l'agneau qui casse la figure au Pharaon. Et quand Jean dit « Voici l'agneau », il proclame cette autorité extraordinaire que Dieu a mis en Jésus-Christ. Alors pourquoi nous ne pouvons pas chasser les démons à distance ? Alors attention, c'est bien si vous allez sur une colline pour prier pour Bienne, c'est bien de prier pour votre ville. Mais ne chassez pas les démons. Demandez plutôt à ce qu'un temps de grâce vienne sur votre ville. On ne travaille pas avec le diable, on travaille avec le Seigneur. L'agneau qui a autorité. Et comment est-ce que l'agneau a autorité ? Eh bien, ce n'est pas en proclamant cette autorité. L'agneau a une autorité et l'agneau a libéré le peuple des Hébreux quand ils ont fait une chose. C'était quoi ? En fait, même deux choses. C'était de mettre le sang sur les linteaux de leur maison. C'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était quoi ? De manger l'agneau. Pourquoi la puissance de Dieu s'exprime quand les gens vont manger l'agneau ? Eh bien, parce que la puissance de libération de l'agneau s'exprime quand Christ peut venir dans une vie ou dans une famille. Il n'y a pas de libération, il n'y a pas de libération de la part de Dieu si l'agneau, si le Christ ne vient pas à l'intérieur d'une personne pour l'habiter, pour le restaurer, s'il ne vient pas à l'intérieur d'un foyer. Et cet évangile qui dit « on va vous proclamer la délivrance depuis une colline », il se trompe, parce que la délivrance va réellement venir quand le Christ viendra dans des vies, quand le Christ viendra dans des familles, et parce qu'il est dans des vies et dans des familles, il pourra transformer le village, et parce qu'il est dans le village, il pourra transformer la région, et parce qu'il est dans la région, il pourra transformer le pays. Et Jésus le dit, vous pouvez chasser un démon, mais si la maison est vide, qu'est-ce qui va se passer? Des puissances encore plus dramatiques vont exprimer cet esclavage. Le vrai combat spirituel, et c'est ce qu'on voit dans le livre du Nouveau Testament, et même dans l'Ancien Testament, le vrai combat spirituel, c'est quand le Christ est annoncé et qu'il entre dans la vie des gens. Le vrai combat spirituel, ce n'est pas d'aller s'enfermer quelque part et de chasser des démons. Le vrai combat spirituel, c'est à l'inverse, d'aller dans la ville et d'apporter l'agneau, d'apporter le Christ. Le combat spirituel, c'est l'évangélisation. Et quand on est face à des gens qui ouvrent leur cœur à Christ, nous pouvons voir cette puissance de libération. Et je pense même que c'est une séduction du diable qui maintenant, dans le monde entier, chuchote aux églises, enfermez-vous, jeûnez pendant 40 jours, peut-être même deux fois 40 jours, mettez-vous à l'écart et chassez les démons. Je pense que là, il est tout content. Il se dit, j'ai bien réussi mon coup. Parce que tout le Nouveau Testament nous invite au contraire à aller rejoindre les gens et à leur apporter le salut par le témoignage, par la prière. L'agneau, et nous l'avons vu, cette puissance de l'agneau traverse toute la Bible finalement. C'est l'agneau qui, déjà au chapitre 5, c'est ce que le frère a lu, j'étais assez étonné parce qu'il a pris le texte que j'allais mentionner, que personne ne peut ouvrir le rouleau dans l'Apocalypse au chapitre 5. Et le lion de Juda, donc on a l'impression que c'est l'animal fort et royal, c'est lui qui peut l'ouvrir, mais en fait, tout de suite après, le texte nous dit que le lion de Juda, c'est l'agneau. Vous voyez, de nouveau, cette puissance, cette autorité qui se cache dans une forme de faiblesse. Et qui est sur le trône dans l'Apocalypse? L'agneau sur le trône. C'est assez extraordinaire. Et si vous lisez l'Apocalypse, eh bien, vous voyez qu'à la fin, au chapitre 21, c'est finalement cet agneau qui est au cœur de la nouvelle cité de Jérusalem. L'Apocalypse 18 nous dit « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. » Je trouve que c'est tellement extraordinaire cette question-là. Vous pourrez méditer à cela. Celui qui est sur le trône, ce n'est pas quelqu'un qui a un pouvoir affiché, mais c'est quelqu'un qui a une puissance dans une forme d'humilité. C'est renversant. L'évangile est quelque chose de renversant. La puissance de Dieu est renversante. Dieu peut transformer le monde avec quelque chose de minuscule. Et c'est parce que les gens ne le voient pas. Pourtant, vous existez parce qu'un jour, il y avait quelque chose qui avait un dixième de millimètre qui a commencé à se développer dans le ventre de votre maman. Et on l'a dit, le Big Bang est parti de quelque chose d'infiniment petit. La puissance de Dieu n'est pas du côté où nous le croyons. Et encore, toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 22, c'est de l'agneau que sort le fleuve d'eau vive. Ce que Ézéchiel avait déjà annoncé en proclamant que du temple de Jérusalem sortirait un fleuve qui finalement entrerait dans la mer morte et guérirait les nations. Ces dessins que vous pourrez avoir et méditer dans le dernier livre que j'ai fait sur l'Apocalypse, on peut les avoir là-bas, eh bien, nous montrent cette part déterminante de l'agneau qui ôte le péché du monde. Et j'aimerais encore, pour terminer, illustrer cette puissance par cette lecture qu'on trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10. Dans cette partie de l'Évangile, il nous est dit que Jésus a pris 70 disciples, qu'il les a mis deux par deux, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a envoyés. Est-ce qu'il leur a dit, vous montez sur la montagne, puis vous allez faire du combat spirituel pendant... Non ? Il les a envoyés dans les villes, les villages. Et toujours dans ce chapitre, il nous est dit que les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Vous voyez ? L'agneau, la puissance de l'agneau qui rentrait dans les maisons. Et Jésus le dit, c'est un passage extrêmement fort quand on parle du combat spirituel, alors que ces gens étaient dans les maisons, qu'ils apportaient l'évangile dans la ville, dans les maisons, auprès des personnes, eh bien Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce n'est pas du combat spirituel, ça ? Oui, ça c'est du vrai combat spirituel, où l'agneau, comme c'était le cas pour les Hébreux, doit entrer dans la vie des gens pour pouvoir les libérer de la puissance du Pharaon. Être dans le combat. Mais Jésus ajoute quelque chose qui terminera cette prédication, ce temps de réflexion. La puissance, l'autorité que nous pouvons avoir sur le diable n'est pas un but. Et ça, je le vois dans beaucoup de ministères où des gens, finalement, sont tellement satisfaits et fiers de leur ministère, de leur conquête, du nombre de personnes qu'ils ont, etc. Et peut-être même, oui, j'ai pu chasser comme les disciples, mais on a même pu chasser des démons. Jésus dit, oui, c'est vrai. Mais dans ce passage, il les ramène à l'essentiel et il le dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » L'objectif, ce n'est pas « Pharaon a disparu ». Aujourd'hui, on n'en trouve même plus la poussière. La Bible nous dit que les méchants sont comme le chaume que le vent dissipe. Toute la puissance diabolique n'est que temporaire. Dans l'Apocalypse, il nous est dit que le diable regarde sa montre avec crainte, sachant qu'il a peu de temps. Tout cela va disparaître. Ce qui est important, c'est que grâce à l'agneau de Dieu, nous puissions entrer dans quelque chose de vivant. Nous pouvons entrer dans la libération et nous pouvons aller vers Dieu. Et c'est pour ça qu'il est utile de mener un combat spirituel, d'annoncer l'Évangile, pour que des personnes puissent avoir leur nom écrit dans leur livre de vie. L'important, ce n'est pas que Pharaon se fasse casser la figure. L'important, c'est qu'il y ait un peuple qui puisse sortir pour aller à la rencontre et vivre avec Dieu. Et c'est cela que nous célébrons avec la Pâque. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est parce qu'il ôte le péché du monde que le diable perd son pouvoir. Pourquoi on ne peut pas chasser un démon à distance ? C'est parce que le démon, il a un droit dans la vie. Quand quelqu'un fait du mal, quand quelqu'un est contre Dieu, il donne un droit à l'oppresseur. Pour que ce droit tombe, il faut que quelqu'un porte le péché. porte cette faute. Et c'est ce que le Christ a fait à la croix. Il a porté ce péché du monde, pour que nous soyons libres et que nous ayons son nom écrit dans son livre de vie. C'est magnifique, non ? On va juste terminer en priant. Et que chacun le fasse dans son cœur, eh bien, on le fera tout à l'heure avec la Sainte Cène, mais c'est comme si vous preniez cet agneau de Dieu, dans, à l'intérieur de vous, que vous soyez réjouis de cela. Et c'est vrai, Seigneur, nous voulons nous réjouir de ce privilège extraordinaire que tu nous donnes de pouvoir recevoir ta vie. Toi qui viens te donner, pour venir jusqu'en nous, pour que nous puissions te prendre à l'intérieur de notre vie, et tu rentres dans notre vie. Et j'aimerais te remettre, eh bien, ceux qui sont là, ceux qui nous regardent aussi peut-être, qu'ils puissent faire cette démarche vraiment, et qu'ils puissent se réjouir de permettre à l'agneau d'entrer dans leur vie. Et c'est vrai que nous te remettons aussi tous ces gens qui sont encore sous d'autres puissances, qui sont encore esclaves, qui sont encore enchaînés, et aussi pour cette ville de Bienne, que tu puisses susciter des hommes et des femmes qui partent à cette conquête, dans ce combat spirituel, pour apporter l'Évangile dans les endroits obscurs, dans les familles qui sont encore dans les chaînes, dans les cœurs qui sont encore dominés par toutes sortes de puissances et de dominations. Merci Seigneur parce que tu es venu, tu es cet agneau qui nous apporte la vie et tu as manifesté cette vie par la résurrection. Merci. Amen.